Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 41e épisode, épisode numéro 40. Nous sommes le 21 avril 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous ?
Bonjour Laurent Dauquin, je suis Pierre-Antoine Grégoire et occasionnellement pour Clever Cloud je travaille sur du IaaS et sur d'autres joyeusetés.
Je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis un mec qui a planté sa compilation Génome 40.
Et je suis aussi accompagné d'un invité mystère, Josh Long. Bonjour Josh Long, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Josh Long, je travaille chez le Keep Spring, chez VMware.
Comme dit VMware.
Bienvenue.
Eh bien, bienvenue, ça nous fait plaisir de t'avoir.
Ça nous fait très plaisir de t'avoir.
C'est le meilleur. Merci beaucoup.
Alors, comment ça va, toi qui prends l'avion tout le temps et on est en pandémie mondiale, tu ne peux plus prendre l'avion, il n'y a plus de conférences, le monde veut savoir, que fais-tu de tes journées ?
Rien de tout. Je fais toutes mes présentations dans la nuit. J'ai découvert que si je me lève un peu plus tard, je peux faire des présentations dans les Amériques, dans l'après-midi, et puis pour la soirée, il y a toutes ces conférences en Asie, et puis pour après minuit, il y a toutes ces présentations pour l'Europe et l'Afrique. Alors, je peux parler avec n'importe qui, mais il faut le régler un peu.
Et là, précisément, tu es dans la nuit pour nous parler.
Après minuit, exact.
Oui, pour ceux qui ne savent pas, Josh est basé à San Francisco.
Oui, exact. C'est toujours la journée ici.
Et c'est toujours la journée. Il est 9h30 chez nous, donc minuit et demi là-bas. On va commencer par parler du...
C'est triste parce que d'habitude, au mois d'avril, nous, on a déjà vu Josh Long un sacré paquet de fois dans l'année.
C'est vrai.
Et là, ça fait quasiment ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu avec Josh parce que c'était il y a un an, en fait, qu'on était à SF avec Josh.
C'est vrai. On était au Tiki Bar avec Josh il y a un an.
Oh, c'est ça, un rêve de avoir cette expérience encore une fois, juste encore une fois. C'est si loin
d'ici. Ça va revenir.
Et on serait en plein Devox aussi.
Ouais. Il y a un tiki bar qui s'appelle Smuggler's Cove ici à San Francisco qui est récemment réouvert, mais on ne peut pas y entrer. Il faut commander le boisson pour emporter. Et ils sont dans la canette.
Ah!
C'est intéressant, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même expérience.
Ils te servent une canette avec une URL de Zoom, en fait.
Tu veux dire qu'en fait, à San Francisco, les bars ferment encore plus tôt que d'habitude ? Parce que pour ceux qui n'ont jamais été à San Francisco, c'est quand même une des villes du monde les moins drôles, en fait. En vrai, pour faire la fête, c'est une ville où tout ferme très tôt. Ouais. Et du coup, ça change quoi, en vrai, la pandémie à San Francisco ? Ouais, je sais, je troll comme ça de bon matin.
Ouais, c'est pas très bien. Et à Paris, ils se sont mis à vendre des cocktails sous vide. Tu peux te faire livrer, t'as ton petit sac cocktail. C'est pas mal.
Ouais.
Ah, mais c'est pas mal. Il manque quelque chose.
Bah, le fait de trinquer avec des gens, en fait.
Donc, je vais vendre des cocktails sous vide avec un lien Zencastr. Comme ça, on pourra tous se retrouver avec notre cocktail sous vide. Sad. Bref. On arrête de parler de tout ça et on va parler d'Apple hier. Nous étions donc le 20 avril, c'était le Apple Event. Alors moi, je ne suis pas du tout, j'ai aucun appareil Apple chez moi. Je ne peux donc pas en parler et je n'ai pas regardé. Mais je sais que Josh et Quentin, au moins, sont équipés de devices Apple.
Personne n'a vous ?
Non. Ah, si, moi j'ai vu un petit peu.
Moi je peux rien dire.
Oui, moi j'ai regardé. Moi j'ai complètement regardé. J'ai regardé le compte rendu parce que je trouve que depuis que c'est plus Steve Jobs, je trouve que les conférences sont devenues très très chiantes en fait. Je trouve que c'est très très compagnie. Je trouve que c'est. Je trouve qu'elles ont plus du tout d'allant, en fait. Je trouve ça assez pénible.
Il y a un côté company meeting, ouais, avec les slides officiels et tout ça.
Il y a un côté Steve Ballmer.
Ouais. Mais moi j'ai acheté mon premier Apple 2011. You know, c'était la première fois où j'ai proposé avec mon agent pour l'ordinateur Apple. Et moi, j'avais Linux, you know, autrefois, mais c'était la première fois. Et vraiment, les ordinateurs ne sont pas très intéressants, mais récemment, ils ont sorti le M1, le CPU M1. Incroyable, c'est incroyable. Vous devez l'essayer parce que c'est 1000 fois plus vite que l'ordinateur qu'ils avaient avant. Vraiment, c'est vite. Et si vous...
Toi, tu travailles sur un M1 tout le temps?
Non, mais en ce moment, non, le problème, c'est que le M1 et Docker, ils ne sont pas des amis. Docker ne travaille pas très bien dans le M1, mais tout le reste pour programmer avec le OpenJDK qui est fourni par Microsoft et qui court dans le M1, c'est incroyable. C'est 2 fois plus vite que le Intel que j'avais de 2019. Incroyablement vite. Très bien, très vite. Vous n'avez qu'à charger le OpenJDK et c'est 2 fois plus vite. Il
ouais.
n'y a rien à faire que ça. C'est incroyable. Alors, je suis bien intéressé à ce qu'ils ont à dire sur le sujet de M1. Et ils ont récemment sorti un iPad avec le M1.
Et des iMac aussi.
Oui, exactement. C'est incroyable.
J'ai vu qu'il y avait une nouvelle Apple TV aussi.
Oui, 4K. L'Apple TV, c'est utile. Même ma fille, elle adore. You know? Ouais. Au début, je l'ai présenté. Je lui l'ai présenté et elle ne savait pas pourquoi je voulais, you know, projeter l'image de l'écran de mobile, de l'ordinateur, tout ça. Mais maintenant, c'est bien facile. On peut partager n'importe quoi parce qu'il y a cet écran dans le milieu de le living room, dans la salle. You know?
Yeah.
Après les grandes nouveautés, ouais, c'est qu'ils ont sorti du coup un iMac M1. Donc c'est le même M1 que celui que vous aviez dans les Mac M1 du début d'année. Hein. Ils n'ont pas fait une nouvelle génération de CPU. Après, ça se défend. Donc vous avez toujours les mêmes limitations, notamment le fait que le M1 il s'est pas adressé plus de 16 Go de RAM. Ce qui est pas nécessairement gênant. Hein, ça dépend de votre use case, mais vous avez toujours cette petite limitation sur 16 gigas. Il y a du coup un nouveau design d'iMac. Moi, je les trouve très mignons, avec des couleurs très, très, très sympas. Enfin, je trouve que c'est un bel outil qu'ils ont fait. Par contre, on continue à laptopiser en fait, la totalité des devices. C'est-à-dire qu'en fait, l'iMac, c'est vraiment un laptop tout plat avec un clavier Bluetooth, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
Puis il y a pas plus que 24 pouces, c'est vraiment le truc qu'ils ont. Enfin, c'est grand 24 pouces, hein. Mais je veux dire l'attrait c'était les 27, c'était maintenant. Enfin, quand tu fais un grand écran
en fait,
24 pouces finalement.
Il est vendu.
Ouais, probablement parce qu'ils étaient trop chers aussi.
Non, parce que les gens en fait qui veulent un gros écran aujourd'hui, ils achètent un gros écran de qualité chez Samsung et compagnie.
Puis du
et
cœur,
en fait, ils le connectent à leur Mac. Et en fait, ils vont adresser maintenant les high-ends, tu vois, ils vont aller les adresser avec les Mac Pro, tu sais, la poubelle de bureau, là. ils ont sorti ça. Ils ont sorti, du coup, un clavier qui est marrant, parce que c'est un clavier de portable. C'est-à-dire que le nouveau clavier qui te sort, donc il a le lecteur d'empreintes digitales, mais en fait, il n'a plus de pavé numérique. Alors que tu vois, théoriquement, t'as un clavier posé sur ton bureau, t'aurais la place d'avoir le pavé numérique. Donc il y a 2-3 trucs.
Oui, mais ils pourront te le vendre à côté si tu le veux.
Ils le vendent. Il faut l'acheter d'ailleurs.
Non, mais si tu veux un pavé numérique, à mon avis, il y aura un Magic Keyboard ou quelque chose qui va sortir dans quelques mois, je pense.
Oh, dommage.
Probablement.
Je sais pas.
Il faut savoir distiller les nouveautés progressivement, tu vois. Le pavé numérique, c'est quand même un truc fou, quoi.
Et après, ouais, du coup, ils ont sorti un nouvel iPad Pro, donc où maintenant le bidule tourne sous M1.
Ouais.
Et ils ont fait un graphique complètement abusé où ils ont comparé les performances du premier iPad jamais sorti avec l'iPad Pro M1. Là, genre, ce graphique n'a aucun sens, c'est complètement débile. On est 1500 fois plus rapide. Oui, non, mais ça n'a toujours aucun sens, les gars.
C'est vrai que ça fait le premier iPad, il date maintenant.
C'était quand le premier iPad ?
En 2008, 9.
Je crois que ça fait 15 ans. Hein. Ça fait quasiment 15 ans.
15 ans ?
C'est quasiment.
Ah, c'est possible.
Ça fait presque, ça fait peut-être 13 ou 14 ans. Quoi.
Ouais. Le M1 laptop qu'ils ont sorti l'année dernière, elle est moins pesante que l'iPad.
Ah,
et, wow. Mais l'écran est plus grand. Alors, l'iPad, you know, c'est plus pesant, c'est bizarre. L'ordinateur, c'est...
Ouais, mais l'archi, après, elle est vraiment... Tout est ultra optime hein, dedans, avec le M1 en tout cas. Je pense que les nouveaux iPad Pro vont probablement être plus légers aussi, parce que tout est plus proche, tout est orienté autour du niveau CPU. Ouais. Donc,
c'est pour ça qu'il y a...
C'est l'écran. Non, c'est pas l'écran, c'est le clavier qui est pesant. Alors si...
Ouais.
Si le,
ah oui, la cover.
Ouais.
Ouais. C'est sans doute aussi pour pouvoir pour que ça tienne debout sans que l'écran tombe aussi. Ils ont mis un peu de poids. C'est probable.
Alors, le premier iPad, c'était le 3 avril 2010. Donc, ça a 11 ans.
Ah ouais, ok.
11 ans.
Ah ouais. Ah, quand même. Enfin, avoir une comparaison avec un device d'il y a 10 ans, ça reste quand même assez unfair, quoi.
Mais tu vois, sur l'usage de l'iPad, ma compagne qui n'est pas du tout dans l'informatique et qui a beaucoup de. Enfin, qui bosse tout le temps. En fait, son laptop lui sert quasiment plus, quoi. Elle passe sa vie sur son iPad, quoi. C'est fou. Moi, j'ai racheté un Lenovo, tu vois, parce que j'en avais marre de me faire enfermer dans un système Apple où, genre, je pouvais plus bosser sur ce que je voulais en bricolage. Mais tu vois, pour le use case de gens qui servent de l'informatique beaucoup plus comme outil, ils arrivent, tu vois, ils gagnent vraiment des parts de marché avec des gens qui sont vraiment heureux dessus, quoi.
Mais moi, le feedback que j'ai aussi, c'est que c'est un énorme gain de performance pour tous les gens qui font du montage vidéo, du traitement photo, des trucs comme ça, c'est énorme. Hein. Il y a plein de gens qui avaient besoin justement de Mac Pro ou de trucs comme ça, qui finalement avec un MacBook maintenant arrivent à faire un montage complet avec 3 fois moins de RAM et c'est énormément plus efficace. Enfin, je dis ça parce que, par exemple, mon frère fait du montage vidéo et il y a plein de choses qu'il arrive à faire, qu'il a testé sur un M1 et qui blaste. Quoi.
Et peut-être... ça... Pour wrap up sur les événements, parce qu'on est dans un podcast, il y a quand même un truc important, c'est Apple a fait une grosse mise à jour d'Apple Podcast avec une présentation très nice de tous les podcasts, un truc propre, et le lancement des capacités à faire des podcasts payants sur la plateforme Apple, avec ce qu'ils appellent la Apple Podcast Subscription. Et donc, c'est assez amusant, parce que c'est Apple qui a inventé le podcast. Ensuite, il s'est globalement rien passé chez Apple pendant 15 ans, au bas mot. Et là, ils arrivent et ils débarquent pour monétiser le podcast. Et je suis prêt à prendre le pari qu'ils vont devenir leader sur le marché de la monétisation du podcast en un an.
Pari tenu.
J'ai lu une histoire. Selon ce que j'ai lu, c'est quand Apple a sorti le iTunes, la première fois qu'il a sorti iTunes, il n'y avait pas de content, il n'y avait pas de musique, vidéo, de tout ça, de contenu, exact. Alors, ils voulaient y mettre quelque chose gratuit. Alors, ils y ajoutaient le podcast. C'est juste pour avoir quelque chose à présenter dans le...
C'était une fonctionnalité en plus.
Ouais, c'est très utile aujourd'hui, c'est le... Voilà.
Et sinon, si on veut terminer les annonces, donc là, il y a eu une révolution. Ils nous ont sorti une nouvelle couleur d'iPhone mauve. Je vais pas essayer de vous la vendre, elle est vraiment hideuse. Voilà, donc ils te présentent ça comme une putain de révolution.
Non, les goûts ne se disent pas comme ça.
Il y a peut-être des gens qui achètent peut-être l'iPhone mauve depuis littéralement 15 ans, quoi.
Il y a des gens qui vont l'acheter pour pouvoir montrer qu'ils ont le dernier iPhone. Il n'y a pas de problème, je sais.
C'est sûr.
C'est une stratégie que j'ai eue pour montrer que chez Clever Cloud, on n'avait pas de problème financier. Tous les gens qui étaient à l'extérieur à une époque avaient un dernier iPhone et toujours, tu sais, à chaque iPhone, ils font la couleur de l'iPhone, tu vois, de l'année. Et du coup, ben oui, mais toi, t'étais le seul à vraiment pas en vouloir. Et donc après, chaque année, je prenais la couleur de l'iPhone de l'année. Et genre, celui-là, c'est l'année où il y avait une espèce de vert dégueu, tu sais. Alors, oh, quand même le prendre, tu vois.
Josh, tu veux dire quelque chose?
Ça me plaît, le mot.
Et voilà.
Ouais.
Ouais. C'est QFD.
Et ils ont sorti un truc qui s'appelle AirTag. AirTag.
Tile. La société Tile. Ils ont plaigné sur Twitter aujourd'hui.
Ouais. Ouais, ils se sont plaints. Ben ouais, je sais pas trop quoi penser. C'est pas très cool. C'est un tracker. C'est un mouchard.
Genre c'est fait pour récupérer tes clés. En fait, c'est la techno des beacons. Tu sais, qui a été lancée. En fait, c'est la même techno que les beacons. Sauf que là, du coup, c'est Apple qui lance le truc. Donc, ça a des chances de tourner.
De marcher. c'est du Bluetooth low energy.
Ouais, Et du coup, tu peux faire de la géolocation indoor, tu peux retrouver des affaires que t'as paumées, etc. Je pense que ça ouvre des possibilités de créer des nouveaux usages. Là, comme ça, acheter un AirTag et l'avoir, je pense que tu t'en fous. Est-ce que par contre, tu auras pas des usages assez vite, sans doute. Moi, je sais que la première réaction de mon frère a été, j'en achète un, je le colle sur mon kleps.
Sur son chien, ouais, ouais.
Les saucisses, ça marche mieux.
Bon, voilà, ça fait un moment qu'on parle d'Apple. On va passer au lien suivant, si ça vous va. Et on va parler d'un article de The New Stack, de newstack.io. Et ils ont commencé une série d'articles sur ce qu'est le multi-cloud. Qu'est-ce que le multi-cloud ? Et le premier article que j'ai mis... c'est celui sur la portabilité de la donnée. Moi, c'est un article que j'ai bien aimé. Ils expliquent un peu les enjeux de bouger de la data. Ils présentent deux façons de la bouger, une façon de la bouger en continu et une façon de la bouger une seule fois. Et une seule fois, c'est je copie tout, je mets tous les disques durs dans un camion et le camion va à l'autre data center, je prends les disques durs et je les rack dans le nouveau data center. Et ils font une différence entre les coûts et tout ça.
Ouais. C'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Ils disent que à partir d'une certaine quantité de données, il y a un moment donné où le rapport coût-opération fait que oui, en effet, c'est plus avantageux de mettre les données et les disques dans un camion et de les emmener d'un data center à un autre que d'utiliser des transferts. Mais ça peut arriver très vite si on a une quantité exponentielle de données, quoi.
Ouais, donc il parle du prix de la data dans le cloud. Quand vous faites sortir de la data, ça coûte cher. Yep.
Ce que je trouve assez intéressant, moi, il conseille surtout de s'intéresser à ce sujet très très tôt, parce que c'est souvent un sujet qu'on découvre au fil de l'eau, on va dire pour les profanes, et que si vraiment les gens ont une stratégie multi-cloud, alors là c'est une première partie de leur article, hein, ils disent que c'est une partie 1, il y aura sans doute d'autres choses qui vont amener derrière.
Il y a déjà les trois autres parties, ouais.
Ah, elles y sont déjà, d'accord. Bah, pardon, j'ai pas fait mon boulot d'aller voir.
je ne les ai pas lues non plus.
J'irai les lire, du coup. C'est assez intéressant parce qu'en fait, le fait de s'y intéresser très tôt permet de choisir sa stratégie dès le départ et de savoir comment on veut ventiler ces coûts-là. Parce que d'avoir un coût unique et de dire qu'on va faire de la réplication de données, ça nécessite de réfléchir aussi à son architecture, au choix de type de database qu'on va utiliser, de type de mécanisme de réplication, le coût de ces mécanismes de réplication et de leur maintenance, comment on vérifie que les données sont cohérentes. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Les législations pour ces données, où est-ce qu'on les réplique, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses.
C'est une problématique. Il faut que les outils qu'on utilise pour faire ça fonctionnent, qu'on sache les gérer et que les gens qui utilisent ces outils, pas juste les ops qui vont bouger la donnée, mais les développeurs, puissent s'en servir aussi avec la stack qui va bien, ou qu'ils utilisent en tout cas. Et donc, moi, il y a un truc, je ne suis pas... il parle de third-party solution, il parle d'utiliser des solutions propriétaires aussi pour gérer ça. Moi, je sais qu'il y a une boîte de cloud qui s'appelle Island. Ils sont spécialisés en disaster recovery as a service. Et en fait, c'est une copie physique des 0 et des 1 en permanence entre les deux data centers. Et ça coûte très cher, mais apparemment, ça marche aussi. Mais à ce moment-là, c'est une synchronisation live, mais bas niveau, où les développeurs n'ont pas à s'en soucier parce que c'est juste les 0 et les 1 qui sont copiés, tu vois. Là, tu te... c'est pas grave, la stack, t'as pas besoin de te poser ces questions-là.
Mais en tout cas, c'est un angle qui est intéressant parce qu'en effet, la donnée, c'est là que toute l'entropie, on va dire, du système. Quand on dit je veux être multi-cloud et dire oui, bah là, je peux déployer, pour un exemple qui parle, là, je peux développer en Spring sur ce cloud, mais je peux développer aussi en Spring sur ce cloud. Ça suffit pas à dire je vais faire du multi-cloud. Si faire du multi-cloud, sa question, c'est est-ce qu'en effet, je peux transférer mes données facilement d'un côté à l'autre?
Ouais.
Parce que
il faut choisir.
En effet, implémenter des API en Spring Java, je pense qu'on peut le faire sur énormément de cloud, par exemple. Mais les données, c'est plus compliqué.
Les données, c'est mille fois plus compliqué, mais l'architecture préférée aujourd'hui, c'est comme CQRS et tout ça. L'idée, c'est que tout ce qu'il y a de données, c'est publié comme event. Event est comme ça. Les autres clients peuvent le consommer et enregistrer dans leur base de données. Comme ça, on peut répliquer la base de données. C'est la même chose qu'on fait même dans le même data center. Ça m'est intéressant que l'architecture nous sert là-bas et même dans le même data center. Ce qui m'a intéressé dans l'article, c'est qu'il a mentionné Dave McCrory, le concept de data gravity. Vous l'avez-vous?
Ouais.
Data gravity, c'est intéressant parce que Dave McCrory, quand il a discuté l'idée que si vous avez beaucoup de données, ça va attirer plus de données. Ça ne s'agit pas de speed de light, de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les limitations de physique qui vous arrête. C'est plutôt que Salesforce va attirer plus de données parce que Salesforce, c'est le centre de l'entreprise. Et toutes les autres applications vont contribuer à Salesforce. Ils vont ajouter plus en plus en plus et ça va grandir plus en plus. C'est pour ça que c'est difficile de bouger la base de données.
Je trouve que c'est pas très bien présenté dans l'article, effectivement, le concept de data gravity, c'est plus ce que tu dis. Dans l'article, ils disent c'est la bouger qui fait cette gravité-là, parce que ça a un poids et c'est lourd à bouger, mais c'est pas ça, c'est vraiment ce que tu dis, la gravité, c'est plus je mets de la donnée, plus naturellement tout va se recentrer autour de ma donnée, par exemple les traitements, par exemple, parce que tu veux pas faire un traitement sur une donnée qui est hyper loin, parce que t'as de la latence. Tu veux pas de latence. Donc, tout se met au fur et à mesure autour de la data. Et plus tu te mets autour de la data, et plus tu recrées de la data autour, etc., etc., et ça grossit.
C'est l'écosystème.
Ouais, surtout que le cloud, en fait, aujourd'hui, il a tendance à doper la constante G de la gravité de la data parce que tu payes, en fait, le network à l'extérieur du cloud. Et donc, en fait, là où déjà, tu avais tous les soucis techniques dont on vient de parler, aller coller un peu de data là et un peu de data là, à partir du moment où tu payes des transferts entre les deux, ça taxe sa race, en fait, hein, de façon relativement triviale. Ça coûte hyper cher. Donc, pour moi, tu vas remettre un coup de... Enfin, tu redensifies encore plus la donnée quand elle a de la gravité, parce que tu multiplies les sources de sa gravité. Donc, pour moi, c'est un vrai souci. Et quand tu vois qu'en plus, aujourd'hui, la plupart des bases de données qu'on va adresser dans le cloud vont être de plus en plus des bases de données propriétaires ou des bases de données propriétarisées, c'est-à-dire rebidouillées pour être adaptées au use case d'un cloud spécifique, ça devient compliqué, quoi.
C'est vrai.
OK. On va passer au lien suivant, si ça vous va, et on va parler de la nouvelle version de Firefox.
Sans transition.
Sans transition, aucune. Firefox 88, plusieurs features un peu cool, notamment l'arrivée de HTTP3 et de Quick. Et Pierre-Antoine, tu as mis un autre article sur la désactivation du FTP et le support de JavaScript dans les PDF.
Voilà, il y a des trucs sexy et puis il y a des trucs.
Il y a des trucs un peu plus.
Il y a des news à savoir. Non, mais ça m'a. En fait, j'avoue que j'utilise pas les browsers pour faire du FTP, honnêtement. Par contre, ça a dû m'arriver parfois que ça, en cliquant sur un lien FTP, ça m'ouvre un browser. Et donc, en effet, le support va être viré. Il y a peut-être des gens qui s'en servent pour ça. Et donc, en effet, ça va être viré. Et du JavaScript dans des PDF. Alors ça, j'avoue que c'est plutôt un truc dont je m'attendais que ça parte plutôt que ça arrive.
Ouais, ça fait un peu peur comme ça.
Mais en revanche, je pense qu'il y a des scénarios de personnes qui font des formulaires à remplir ou des choses comme ça, où ça, il doit y avoir un monde où il y a un intérêt.
Intérêt, oui, tu vois. Mais après, que ce soit pour autant une grande idée, tu vois, d'avoir du JavaScript dans les PDF... PDF, c'est quand même le format où, genre, quand tu reçois un PDF, t'es pas... Tu vois c'est quand même un des rares formats où t'es pas stressouille quand tu le reçois, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors après, je sais pas si l'idée, c'est de pouvoir manipuler, c'est-à-dire qu'en gros, il va parser une partie du PDF, un peu comme le DOM, pour y accéder, ou si l'idée, c'est de pouvoir faire de la dynamique ou de la saisie dedans. Alors j'avoue que j'ai pas regardé les détails pour l'instant. Shame on me. Mais en tout cas, là, justement, ça m'avait surpris, j'avoue que ça m'avait surpris comme feature, comme fonctionnalité. Après, je suis pas sur Quick et HTTP3, moi j'ai pas de.
Bon, c'est juste que c'est arrivé, je sais pas qui s'en sert actuellement, je sais que Google s'en sert, que Facebook s'en sert, ils en parlent dans l'article. Après, je sais pas qui d'autre en ce moment, en 2021, fait du HTTP3.
Vous apprendrez qu'en fait, du JavaScript dans les PDF, ça date d'il y a 2000 ans, en fait. En fait, depuis le début, il y a ça et...
Ah, tu veux dire en dehors des browsers ?
Ouais, en dehors des browsers.
Oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup de solutions en clients lourds ou choses comme ça qui utilisaient du JavaScript pour scripter des formulaires dynamiques, des machins dans les PDF ou des choses comme ça.
Mais apparemment, c'est extrêmement sandboxé.
Ouais. Et du coup, ça me paraissait plus un truc dont je m'attendais qu'il soit déjà là dans le navigateur et qu'il parte qu'une feature qui arrive, en fait. J'avoue que c'est la dynamique qui m'a surpris, honnêtement.
Donc Josh, est-ce que vous faites du HTTP3? Non.
Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas étudié, mais ça m'a fait triste de voir disparaître FTP. C'est un protocole qui m'a servi bien dans le passé. C'est de plus en plus, on emploie le HTTP au lieu de RSS, au lieu de FTP, au lieu de tous ces protocoles qu'on avait avant. Mmh. Ça me fait triste. HTTP, c'est utile, mais ce n'est pas le remplacement pour tous. You know?
On va faire des t-shirts « Give me back my FTP ». Ça permettra vraiment d'être encore plus vieux que ceux qui mettent des t-shirts avec des disquettes, ouais, comme moi.
Exactement. Toutes les grandes entreprises, elles courent avec File Transfer. Au cœur de ces grandes entreprises. Au sein de ces grandes entreprises, c'est File Transfer. Et FTP, c'est, you know, c'est très important. C'est bizarre de le voir disparaître.
Bon, après, ça disparaît de Firefox, ça disparaît pas complètement. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement font du FTP et le font probablement pas par les navigateurs, utilisent FileZilla, CyberDuck sur Mac ou des choses comme ça, quoi.
Moi, j'ai FileZilla, toujours installé.
Same.
Je n'en parle jamais, mais...
Same. Je sais pas si... Nous, on a beaucoup de développeurs PHP sur Clever Cloud. La plupart, ils font du Git. Mais on a encore quelques développeurs PHP qui utilisent FTP pour leur WordPress parce que les gens sont habitués à travailler avec ça, en fait. Donc,
C'était très lié à ça, en fait. Je pense pour beaucoup de gens, une plateforme LAMP avec un FTP, ça a été les premières ébauches de développement web que beaucoup de gens ont fait.
Oui, oui. Ouais. C'était la littéralement la raison pour laquelle j'ai utilisé un FTP pour la première fois. Et après, dans mon premier stage d'entreprise, j'ai réécrit une applette Java client FTP.
Qui n'a pas fait quelque chose de ce genre-là à une certaine époque.
Client FTP. Pour que, à l'époque, le client, c'était un imprimeur. donc un imprimeur professionnel, puisse mettre les gros fichiers...
les TIFF.
Les TIFF, les ESD, les fichiers Photoshop, etc., qui faisaient plus que 8 mégas et qui ne passaient pas dans le serveur PHP.
Dans l'upload, oui.
Et moi, j'étais là genre, ouais, il faut utiliser Tomcat, parce qu'avec Tomcat, on peut dépasser cette limite. Mais on était chez un hébergeur qui ne permettait pas d'utiliser Tomcat à l'époque. J'étais bloqué en PHP 3 et MySQL 3.
Ah, PHP 3.
Ouais. C'était Océanet, l'hébergeur, pour ceux que ça intéresse. Bim, je dénonce.
PHP 3 shaming.
C'était en 2005. Ouais, ça date, 7, je ne sais plus. Enfin, c'était il y a longtemps. Ça a sûrement changé depuis. Bon, bref. Je vais arrêter d'être méchant avec des gens et nous allons passer à l'autre.
C'est un peu gratuit en plus.
Ouais, j'avoue, c'était pas très sympa. On va passer, mais tu sais que moi, à l'époque, il y avait déjà PHP 5, tu vois, donc je l'ai un peu mauvaise en vrai. Mais bref, on va passer à l'autre nouvelle Foronix du jour, puisque quand il y a Pierre-Antoine ou moi, il y a forcément des liens Foronix. Et on va parler de Gnome 40, Gnome 40, et surtout de GTK 4 qui est sorti, qui est dispo dans certaines distributions mainstream, notamment la dernière Fedora, OpenSUSE et le Exerbo de Quentin.
Il nous
montre à l'écran.
Il a compilé pendant qu'on dormait, enfin pendant qu'on parlait.
Alléluia.
Hourra.
Et donc, ouais, Gnome 40, donc c'est le début de la nouvelle version majeure de GTK. Donc, en soi, Gnome en lui-même n'a pas des changements majeurs. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs discutables, il y a des gens qui commencent à râler parce que ce n'est plus comme avant. Il y a plein de gens qui n'aiment pas un Gnome et qui en profitent pour râler dessus.
En fait, à chaque release de Gnome, tu as des gens qui viennent chialer. Enfin, si tu veux, y a pas de...
Après, Gnome, c'est un parti pris de faire quelque chose d'assez basique, simple et sur lequel tu peux rajouter tes extensions, et c'est vrai que c'est pas KDE qui a plein de qui ressemble à un Windows avec plein d'autres fonctions par au-dessus, donc c'est assez sommaire, mais c'est, enfin, moi j'aime bien, donc je suis un peu biaisé, j'aime bien le côté assez sommaire du truc,
sachant que tu sais, dans la team il y a quand même toute une partie des gens qui utilisent i3 voire souhait, tu vois, qui diront non, Gnome ça fait beaucoup trop de trucs, tu vois.
Oui, c'est ça, t'as les deux tendances. Soit il n'y a pas assez, soit il y a trop. En fait, c'est un bon juste milieu. Et finalement, on le trouve maintenant, notamment depuis qu'il n'y a plus, c'était Unity dans Ubuntu, c'est quand même celui qui est dans la plupart des distros mainstream par défaut. Donc, quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on démarre un Linux, on a souvent Gnome par défaut. À moins de prendre un spin spécifique, KDE ou autre chose, on a souvent Gnome par défaut. Donc c'est quand même intéressant de regarder ce que ça fait, mais c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup d'applications qui vont devoir passer à GTK 4, et notamment ça va maintenant relativement de pair avec la poussée, la montée en force de Wayland pour remplacer X. Et alors là, c'est vrai que j'avais pas mis cette news, il y a aussi une autre news, j'essaierai de rajouter le lien après, il y a un support NVIDIA de Wayland qui a été poussé upstream directement par NVIDIA, pour les drivers natifs. Donc là, c'est quand même assez intéressant pour les gens qui ont des cartes NVIDIA, parce que ça veut dire aussi qu'on va pouvoir utiliser ceux qui ont et une carte NVIDIA et la carte Intel, par exemple, ou celle du processeur, on va dire, celle de la carte mère, la carte vidéo, d'avoir des applications qui fonctionnent avec l'un et avec l'autre, et pas devoir switcher entre X et Wayland pour certaines applications. Donc, bon, faut attendre quelques mois avant que ça se... ça stabilise au niveau des applications.
Avec un nouveau tool complètement génial quand même sous Gnome, où tu cliques droit sur une application avant de la lancer et tu dis, tu peux me lancer ça sur ma NVIDIA ou tu peux lancer ça sur le chipset Intel. Donc cette capacité à utiliser une appli sur l'un ou l'autre, c'est quand même vraiment génial, quoi.
Ça, c'est vraiment bien. Alors après, je pense qu'il va falloir que les applis soient vraiment bien codées pour le supporter, parce que s'il y a un moment donné où ça va... C'est des applications un peu optimisées pour un des deux et qui vont dire « Ouais, je me lance, pas de problème sur ton truc » et qui crache juste derrière, ça va arriver. Ça va prendre un petit peu de temps à s'adapter.
On attend l'update de JPaste en GTK 4 qui est codé par M. Marc-Antoine Perrenou, que vous avez peut-être vu dans ce podcast.
JPaste et Germinal.
JPaste et Germinal, ouais. Josh, quand tu avais Linux, c'était quoi ton window manager? C'était Gnome, KDE?
Gnome, pour la plupart, mais vous parlez de Unity.
Ouais.
Ubuntu l'a sorti et c'était terrible. Mais c'est pour ça que j'ai abandonné le Linux et je suis allé au Mac. C'est 2011, hein. Nome, c'est fine, c'est joli, you know. Mais pas, quelque chose que j'ai récemment lu qui n'a absolument rien à voir avec Open Source et Tumbleweed, tout ça, c'est que récemment, l'appui pour M1 a atterri dans le kernel.
Oui.
Apple M1.
Ouais, ça va commencer dans le kernel 5.13. Bon, il y aura probablement un épisode de News Kernel pour le 5.12 bientôt qu'on va faire. Ouais. Mais il y a déjà des bribes de premier patch qui arrivent et a priori, ils cibleraient le 5.13. C'est pas sûr que ce soit fini,
ouais.
Mais il y aura probablement un 5.13, un support pour M1.
Comme ça, on pourra faire des benchmarks.
Le Mac Mini au bureau, tu vois.
Ouais. Comme Yellowdog, Linux or something, ou Yellowdog, comme... Vous appelez Yellowdog?
Mm-hmm.
Ok, cool. C'est le distro.
Yellowdog.
Les Mac par PC.
C'est ça. Yellowdog.
Il faudrait qu'on mette ce lien-là pour les gens qui ont envie d'aller faire vraiment d'expérimentation Mac, Linux, Yellowdog, c'est bien.
C'est vrai. Et donc, bah ouais, le M1, ouais, après le support kernel, il faudra attendre que ça, qu'il y ait d'autres choses un peu qui soient adaptées, mais c'est intéressant.
Yes. Cool. Écoute, si vous n'avez plus rien à dire là-dessus, c'est dommage, on aurait pu troller encore pendant longtemps sur Sway et toutes ces choses-là. On va passer à un autre type de troll, on va passer à un troll de licence et on va parler du changement de licence de Grafana. Grafana, c'est un outil de dashboarding qu'on utilise chez Clever et que plein de gens utilisent aussi, qui était en licence Apache 2 et qui passe en Afero GPL V3, en AGPL V3. Alors, c'est lié en partie à tous les changements de licence dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui sont en général des réponses à « vous faites du business avec mon produit sans reverser à la communauté, sans... ouais, c'est ça, globalement, sans renverser à la communauté ou à la boîte qui gère le truc, qui souvent est la communauté, bien ou pas bien. Et du coup, ils se disent, Apache 2, c'est trop permissif, on va passer à AGPL V3, sans pour autant aller vers la SSPL, la Server-Side Public License, qui était la licence introduite par MongoDB en 2018.
Et adoptée récemment par Elastic.
Enfin, c'est une SSPL-like, ouais. Adoptée par CockroachDB, adoptée par plein de gens qui voulaient protéger leur business de façon pas forcément claire, mais entre les lignes, c'est protéger son business contre Amazon. Contre AWS, souvent, mais aussi contre
potentiellement les gens contre ceux qui auraient la même idée.
Voilà, qui auraient la même idée. Et Grafana voulait absolument une licence OSI approved. Donc l'OSI, c'est l'Open Source Initiative, c'est les gens qui disent cette licence est vraiment open source ou pas. La SSPL n'est pas open source, la GPL V3 est open source.
D'après l'OSI.
La différence majeure entre les deux, dans la GPL V3, ils vous disent qu'à partir du moment où vous fournissez ce truc-là au-dessus d'un réseau, je crois que c'est ça, vous devez fournir les sources de ce qui vous permet de le faire.
En fait, ça a été fait avant le cloud. En fait. La GPL, c'était tu sais, du temps où on disait les applications ASP, application en mode serveur. Et du coup, ce qui se passait, c'était au lieu de faire des applis multi-tenant, les gens faisaient une chier d'applis monotenant.
Ce qui permettait de circonvenir.
Et ce qui faisait que globalement, t'avais des gens qui se mettaient à largement modifier des applications, tu vois, libres, et ne pas reverser le code en disant, mais ça sort pas de mes serveurs. Et donc c'était vraiment ça la base, c'était vraiment genre ça touche au réseau, non tu dois quand même le livrer quoi.
C'était pas avec la Freebox qu'il y avait une histoire comme ça?
Si, mais c'était pas une histoire d'AGPL, c'était une histoire de GNU. En fait l'histoire c'est que Free avait bricolé le code source de Linux et compagnie pour faire la Freebox, et ils voulaient pas reverser leur modif sous prétexte qu'en fait la Freebox tu l'achètes pas, la Freebox tu la loues à Iliad, et donc en fait elle ne quitte pas le réseau. Elle fait partie de chez Iliad et ils considéraient que c'était la terminaison de leur réseau.
C'est un détail d'implémentation. Ouais.
et que ton truc à toi, ça a commencé à ton ordinateur, et que la Freebox, de toute façon, elle faisait partie du réseau Iliad et qu'elle appartenait à Iliad. Et donc, en fait, comme il ne t'avait pas vendu le logiciel, il ne t'avait pas vendu l'objet, il ne t'avait pas vendu le logiciel, il ne t'avait pas distribué. Et ils ont perdu ce procès. Je ne me souviens plus de l'argument juridique qui leur a fait perdre le procès, mais ils ont perdu le procès. Ils ont fini par foutre en vrac sur un FTP, justement, la totalité de leur modif de code source. Mais il n'y avait pas de sujet AGPL. AGPL, ça a vraiment affecté tous les gens qui faisaient des applicatifs faits sur serveur avec, tous les gens qui, par exemple, prenaient Elg, Drupal ou tous ces trucs un peu, ou tous les ERP, genre OpenERP, les bricolaient dans leur coin. Et après, quand la communauté allait les voir en disant, mais reverse, bah, les mecs disaient, non, moi, je reverse que dalle, tu vois, c'est pas moi que ça regarde, quoi. Et donc, c'est pour tous ces projets-là que la AGPL est sortie à la base.
Et tout ça, en fait, l'idée, de toute manière, c'est la problématique, c'est le fait d'implémenter des fonctionnalités à valeur ajoutée et de jamais les reverser upstream. C'est typiquement, et surtout d'en faire un business derrière, parce qu'à la limite, si les gens en font pas un business et que c'est juste un truc local, entre guillemets, bah, c'est pas, on va dire, ça n'intéresse pas grand monde. Mais si derrière, on monte un business sur un produit qu'on dérive et qu'on rajoute des fonctionnalités de cluster spécifiques, plein de choses comme ça, mais qu'on les reverse jamais upstream ou tout ou partie, hein, parce que je pense que là-dessus, si une partie était reversée, je pense que les gens seraient pas, on va dire, aussi embêtés. Mais c'est vrai que Grafana, alors pour le coup, Grafana, on en voit partout, quoi. Vraiment, il est embarqué dans plein de choses. Et il y a beaucoup de gens qui, en effet, font des forks locaux, mais du coup, les revendent comme un service. Et je comprends que bah, c'est embêtant pour les gars qui maintiennent ça et qui passent énormément de temps, quoi.
Bah ouais. C'est quelle licence, le code de Spring?
Spring, c'est du...
C'est Apache 2.
Apache 2, ouais.
Apache 2, ouais.
Mais VMware, on contribue beaucoup Cloud Foundry. Mais c'est Apache 2 aussi, je crois.
Je peux regarder. Bonne question.
Quand même, c'est intéressant qu'il a mentionné Cloud Foundry et OpenShift qui sont toujours ouverts. Alors, c'est pas... C'est pas interdit de...
C'est ça, mais après, c'est, on va dire que c'est un business model un peu distinct, parce que Grafana, je pense que les gens installent Grafana, ils l'utilisent pas comme une plateforme de déploiement ou autre chose que... Ou là, je pense que Cloud Foundry, OpenShift, les deux projets ont envie que ce soit installé le plus possible, et même éventuellement dérivé, et que ça, entre guillemets, ça génère de la consultance autour, ça génère un business de valeur ajoutée autour. Et c'est pas l'installation du produit Grafana de monitoring et l'adaptation qu'ensuite tu vends comme un service, quoi, qui est un peu distincte.
Une fois que tu as regardé la stabilité du bidule, tu comprends que les mecs visent de consultancy autour. Hein. Sans vouloir être le moins du monde désagréable. Tu vois,
c'est loupé.
Ah merde.
Je suis en train de chercher Cloud Foundry, c'est Apache 2.
Cloud Foundry, c'est que du Apache 2.
Ouais. Ouais,
et OpenShift aussi. OpenShift aussi.
Après, mais, c'est pas exclu que ça change. Il suffit, en fait, je pense que c'est toujours le souci. La plupart des boîtes, c'est une question de dimension. La boîte qui fait Grafana, c'est pas VMware. Donc, je pense qu'elle peut facilement se faire attaquer de front par un gros acteur cloud qui va revendre un service équivalent. Là où je pense pas qu'il s'attaquera à un produit de VMware, parce que je pense qu'il n'y a pas les mêmes batteries d'avocats derrière, et que en cas de souci ou d'abus, ce sera pas la même confrontation, on va dire. C'est David et Goliath, quoi.
Ouais, après, des gens qui ont lancé des Cloud Foundry ou des OpenShift as a service, enfin, tu vois, ça fait 10 ans que je fais ce business, moi. Des gens qui ont lancé ce genre de produit, il y en a tous les ans. Et tous les ans, ces gens-là viennent me voir en m'expliquant que de toute façon, je suis un has-been et qu'il faut que je rejoigne la communauté parce que tu comprends, on va tous développer ensemble et ça va être génial. Et là, genre oui, on va tous développer ensemble sur une base de code moisie et donc du coup, ben, ça ne va pas marcher. Mais je suis ravi de venir t'aider. Regarde, on fait plein d'open source chez nous. Mais du coup, si tu veux, des gens qui font ça, il y en a tout le temps, mais ça prend jamais. Ça prend jamais parce que le produit de base est très très compliqué et qu'en fait à chaque fois qu'il est implémenté dans des boîtes, il est hyper customisé, hyper bordé, hyper, tu vois, ça, en fait c'est jamais
Si tu veux, le souci majeur que je vois, c'est pas forcément que la base de code est pourrie. J'ai pas regardé, je vais pas en parler. Par contre, OpenShift, OpenStack, tous ces trucs-là, c'est des plateformes génériques que tu dois utiliser pour construire ta propre plateforme. Donc, tu dois répondre aux besoins de tout le monde. Parce que tout le monde veut faire sa plateforme sur ton code. Et ça, forcément, ça va induire un niveau de complexité qui est très difficile à gérer. Et c'est pour ça que quand tu démarres avec OpenShift, avec Kubernetes, avec OpenStack, il faut des développeurs, il faut des gens, il faut une main-d'œuvre pour arriver à gérer cette complexité qui est liée au fait que ça doit marcher pour...
Ouais. Et en fait, là, je pense
que... il faut des gens capables de t'expliquer où aller dans le code.
C'est ça.
Parce que c'est un merdier, ces plateformes-là, mais sans déconner. Il te faut un traceur pour imprimer les plans de trucs, tu vois. Parce que c'est...
Après, c'est fait comme des boîtes de Lego ou des boîtes de mécano. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en effet, que tu utilises.
Unix style. C'est un petit truc.
Mais en fait, t'as quelqu'un... En fait, le problème, c'est que t'as cette illusion. T'as quelqu'un qui va prendre un outil comme OpenShift, Cloud Foundry, qui va monter, en effet, quelque chose et qui va dire, regarde, j'ai pris cet outil, cette boîte de Lego générique ou cette boîte de mécano générique, j'ai monté quelque chose. Pourquoi on ne monte pas tous exactement la même chose que moi? Tu vois, sauf que chaque individualité dit ça. Si, pourquoi vous montez pas exactement la même chose que moi? On a les mêmes Lego, sauf que chaque truc va être différent. Et cette distinction, elle est importante parce que c'est pas la plateforme complète qui est la même partout. Ce sont les briques. Et donc chaque chose est très distincte et du coup va être montée de manière très différente. Et quand on parlait tout à l'heure de l'entropie des données, de tout ça, monter cette plateforme là dans différents contextes va être à chaque fois différent avec des contraintes très distinctes.
Et pour moi, c'est ça le succès de Kubernetes aujourd'hui. Kubernetes, ça a été le dans toutes ces plateformes, ça a été la plateforme, genre, c'était simple, tu vois. C'était simple, t'arrivais.
Mais au départ, c'était voilà. Assez basique, quoi.
Et comme tout le monde a rush dessus, du coup, maintenant, Kubernetes est censé faire les besoins de tout le monde avec des gens qui s'appellent. Et si tu prends non plus Kubernetes, mais tout l'écosystème Cloud Foundry, Cloud Native Foundation, rien que décider quelle brique tu vas utiliser, c'est l'enfer, tu vois.
Ah, là, tu parlais de traceur, la carte de la Cloud Foundry Foundation, il faut un traceur, ouais.
Ouais, puis en plus, il faut savoir quels projets existent vraiment, quels projets sont... et en fait, le truc est hyper compliqué. Et en fait, je pense que c'est ça le point. Après, je pense que le relicensing chez Grafana, il est dû aussi au fait que ils ont pas le côté central que tu peux avoir une base de données, tu vois. Que tu parles d'Elastic, ouais. Que tu parles de Mongo, etc. C'est là où sont tes données. Et du coup, tu as quand même facilement donné de l'argent pour ça. Et en fait, ils arrivent. Enfin, je pense que pour eux, c'est plus difficile, tu vois, de prendre un licensing de fou furieux comme les autres peuvent prendre, parce que tu vois, il y a un moment, tes données sont dedans. Je pense que leur stratégie à eux, elle est beaucoup plus sur gagner plein de clients plus petits. Et je pense que la licence AGPL et se placer plus en open. Correspond aussi à un truc qui est de dire continuez à déployer du Grafana, et ce qu'on vous vendra, c'est des add-ons payants, c'est du Grafana hosted, mais où c'est plus facile pour toi de revenir chez toi. Je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. Et après, moi je pense qu'ils voient plutôt leur business non pas sur la partie Grafana pure, mais je pense que c'est leur c'est Cortex, Loki et compagnie qui sont leur stratégie long terme de profitabilité. Loki, c'est leur agrégation de logs, et Cortex, c'est l'espèce de bidule qui te permet de fédérer des Prometheus ensemble.
Puis il y a Tempo aussi qui est leur base Time Series, je crois. Si je ne m'abuse. Ouais.
Mais je crois qu'ils ont des plugins payants. J'ai peut-être de la connerie, mais il me semble qu'ils ont des plugins payants.
Je crois qu'ils sont OpenCore.
Il me semble, ouais.
Josh, tu as un avis là-dessus ou... Tu as un avis là-dessus? Tu veux dire quelque chose?
Moi, je suis fasciné par le lien à suivre.
Ah bah.
Bon, eh bien, sans transition, passons au lien à suivre. Et le lien à suivre, c'est un lien du blog de Spring.io. Josh, est-ce que tu veux nous en parler?
Non, parce que moi, c'est pas la date.
C'est vieux, c'est 29 octobre 2020.
C'est déjà ouais. c'est antique.
Oui, exactement. Alors, on va en parler maintenant.
Alors, vas-y.
Ouais, en fait, c'était dans le cadre de, enfin, quelque chose qu'on a déjà évoqué, qui est le retrait de Bintray, ouais. Donc la solution publique de publication de binaires qui était fournie par JFrog plus ou moins gratuitement, enfin énormément gratuitement pour beaucoup de projets open source en tout cas. Et donc il y avait une annonce. Alors moi, j'avais rajouté le lien sur Spring.io pour faire le lien avec toi aussi, hein, pour si jamais tu avais quelque chose à annoncer, de rebondir, ce qui est pas forcément le cas. Mais c'était pour rappeler qu'en effet, il y avait beaucoup de repositories open source, dont ceux de Spring, mais ceux d'autres solutions, qui sont ou étaient hébergés sur Bintray, et qu'il fallait donc, dans vos repository manager, dans vos builds, vérifier que les URL que vous utilisez ont bien été migrées quelque part d'autres, soit sur JFrog, parce que je sais qu'ils ont proposé du réhébergement sur leur solution leur solution JFrog et pas Artifactory et compagnie quand c'est compatible, et soit sur d'autres solutions quand c'est disponible. Ça peut être du GitLab hosted ou des choses comme ça, et donc il faut quand même vérifier tous ces repositories pour voir si ce qu'on utilisait ou ce qu'on utilise actuellement n'est pas dessus. Et je pense qu'il y a en plus un effet double, c'est que pour tous les gens qui utilisent des repository managers, ça va pas forcément se voir tout de suite, parce qu'il y a le cache du repository manager qui va jouer à plein, et il y a des gens qui vont s'en rendre compte quelques semaines plus tard que finalement ils récupèrent plus de nouveaux artefacts puisque sur Bintray il n'y a plus rien, quoi.
Ouais.
Tu appelles l'action pour mieux se protéger. Ok.
Et donc on. Voilà, c'était juste un rappel. Donc, en soi, on n'a pas énormément à commenter, surtout si toi, tu n'as pas grand-chose à dire sur les repositories Spring en particulier, quoi.
Ouais, ça a été géré de toute façon par l'équipe depuis octobre. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Non, j'imagine qu'ils ont réorienté les domaines vers là où c'est hosté maintenant. Ouais, je pense que pour la plupart des repos Maven, ce n'est pas un énorme problème. Je pense que c'est surtout pour les gens qui hostaient des binaires construits, des distros, des packages plus complexes. Qui n'ont pas forcément quelque chose d'aussi entre guillemets structuré que les repositories Maven ou des choses comme ça, qui sont assez faciles à bouger, parce que finalement il suffit d'avoir un serveur HTTP autre part avec les métadonnées, et un repository Maven, c'est facile à bouger. Bon, la dynamique, ouais. C'est plus compliqué, mais
dans le cas de Java, enfin de Maven, ça n'a pas posé beaucoup de soucis. Il y a d'autres trucs que Maven. Comme par exemple, ils avaient du Docker, tu avais les paquets Debian, tu avais les paquets Yum, tu avais des paquets génériques, tu avais, je sais plus. Bon, bref, en ce moment,
c'était l'équivalent d'un gros FTP où les gens mettaient beaucoup de binaires très différents et pas structurés forcément. Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
Et en ce moment, et du coup, je suis en train d'essayer de migrer ça. Et franchement, c'est pas très drôle. Mais du coup, je suis triste. Et j'aimerais vraiment savoir quelle est la perte de PIB mondial de la fermeture de Bintray. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Et je suis triste. Mais je comprends. Mais je suis triste. Anyway, moving on. On passe au lien suivant. Et c'est OpenJDK chez Microsoft. Ça vient de Pierre-Antoine Grégoire, je crois. Ou de Quentin.
Ça vient de moi.
Ah.
Moi, quand ça parle de dire des choses positives sur Microsoft, il y a moi, tu vois.
Et ouais. Et donc, je peux en parler aussi, sauf si tu voulais enchaîner dessus.
C'est globalement Microsoft a sorti un OpenJDK en buildant depuis des sources d'OpenJDK avec les scripts de build d'OpenJDK. Ils ont collé un gros logo Microsoft dessus.
Alors, en particulier, ils utilisent les scripts d'Adopt OpenJDK, qui, au passage, si je ne m'abuse, fait partie de Microsoft. Enfin, en tout cas, les équipes qui gèrent Adopt OpenJDK sont chez Microsoft maintenant, ce qui est cohérent. Ouais, il me semble, hein, qu'on avait parlé de ça, fut un temps. Tous ceux qui sont à Londres, notamment. Tout ce qui est OpenJDK maintenant, enfin sur Adopt OpenJDK, il y a vraiment beaucoup de distros qui sont disponibles. Il n'y avait pas encore celles de Microsoft qui sont, pour le coup, disponibles sur Azure, mais qui maintenant sont aussi qu'on peut utiliser à son usage personnel. C'est pas inintéressant. Il y a beaucoup de distros OpenJDK. La plupart sont quand même très toutes relativement similaires. Il y aura peut-être des adaptations, peut-être sur les fontes qui sont bundlées dedans. Ça peut être intéressant s'il y a des gens qui génèrent des PDF avec des fontes Microsoft et qu'elles sont mises à l'intérieur. Ça, c'est par exemple intéressant pour des choses comme ça. Mais avec une bonne fonte config, on peut s'en sortir hein, sans ça. Donc, faut voir si vraiment ils font autre chose que le déployer dans Azure et si vraiment ça diverge. Il y a quand même relativement peu de sens dans un premier temps que ça diverge énormément. Surtout vu le cycle de release d'OpenJDK maintenant qui est quand même assez soutenu.
Ouais, c'est bien, il y a de plus en plus d'OpenJDK et de Java en général. C'est quand même une fonctionnalité. Super bonne nouvelle. Je ne sais pas, Josh, comment ça a changé ton travail. Maintenant, il y a une version de Java très souvent.
Question de Java.
Ouais.
Vous avez récemment, vous, le output SDK Manager List Java?
Non.
Il imprime un menu de toutes les versions de Java. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 différentes versions de Java, différentes distributions de Java.
Et toi, quand tu fais des démos, tu utilises quoi? Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas ce qu'utilisent les gens dans les entreprises. Je n'arrive pas à me rendre compte si tout le monde est stuck avec Java 8 ou s'ils font du Java 11, du Java 16. Toi, quand tu fais des démos, tu parles de quel Java?
Moi, OK. Aujourd'hui, Java 16, Java 16, si c'est possible. Mais il y a des occasions où il faut Java 11. Parce que je démo GraalVM, alors il faut Java 11. Mais récemment, on a sorti GraalVM qui comprend Java 16, alors ouais. Peut-être, et non, ça va changer.
Mais je pense que ça se prépare surtout pour la 17, et en fait, la 11 était une LTS, et la 17 ouais. Sera aussi une LTS. Ouais. Il faut comprendre aussi qu'en entreprise, pour en avoir un peu de feedback, la plupart des gens, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur 8 parce que la 8 est encore supportée par beaucoup d'éditeurs jusqu'à 2023, au moins. Franchement, parfois 8 c'est très moderne dans certains cas. C'est il y a des gens qui aimeraient bien que tout le monde passe à 8, donc c'est dire.
Qu'on parle du système de SSL de Java 6, c'est ça?
Ouais, c'est non. Ça.
Il n'y a pas un cipher qui se porte bien.
Oui, ou TLS, c'est pas possible. Enfin, tu vois, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà, Java 8, Java 11, Java 17, c'est ça les versions que la plupart des gens, entre guillemets, en entreprise, quand on dit la caricature entreprise, utilisent. Après, des gens qui suivent toutes les versions, il y en a évidemment, mais je sais pas si tout le monde a vraiment le temps, à moins d'être vraiment constamment, d'être en déploiement continu et de se dire, il me faut toujours la dernière feature du langage.
Ouais.
Je pense que il y a plein de gens qui sont contents avec la 11 et qui regardent ce qui va se passer en 17. Et honnêtement, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles en 17. Et il y a beaucoup de gens qui vont sauter en 17 quand ils attendent les fonctionnalités, quoi.
Moi, j'attends 17 aussi. Le problème, c'est que le marche depuis Java 8 et Java 9, c'est ça le plus dur, difficile. Mais you know, au-delà, c'est facile.
Ouais, c'est
Java
ça.
8, être attrapé entre Java 8 et Java 9, Java 8, je ne comprends pas pourquoi on continue l'employer. C'est le plus pire par beaucoup, hein. C'est moins efficace, moins sûr, moins de features, moins de syntaxe, tout ça. So, c'est, in English, technically inferior in every way, right?
C'est ça.
C'est aussi morally inferior in every way. Regardez vos enfants quand ils comprennent que vous employez Java 8 en production toujours. C'est dégueulasse, tristesse.
Shame, shame.
Pourquoi?
Après, je pense qu'il y a eu un pet peeve, pour le dire en anglais, qui a été les modules, l'introduction Jigsaw. Des modules et Jigsaw, qui ont été, il faut le dire, avec tous les efforts, malgré tous les efforts qui ont été faits, assez mal introduits et qui ont amené des incompatibilités, des choses qui cassaient. C'est-à-dire que les gens qui testaient qui n'avaient pas le temps de tout réimplémenter, quand ils testaient au début, avec Jigsaw, tout casser, ou alors il fallait rajouter 50 options au démarrage de la JVM pour le faire marcher. En fait, c'est exagéré.
Jamais ton code à toi qui pétait, c'était une librairie quelque part.
En Java, tu fais jamais que ton code à toi. C'est-à-dire que globalement, tu utilises plein de librairies, et quand ces librairies cassent, tu peux rien faire à moins de tout réimplémenter, quoi.
Depuis, ça a été fixé un peu partout.
Complètement.
Elle est contribuée à la librairie. Puis alors, en plus, elle est contribuée dans une base de code que tu connais pas pour faire la compatibilité Jigsaw. C'était bien, tu vois.
Mais non, je pense qu'il y a une phase de hop-on où il y a un côté, c'est pour ça que je disais le mot pet peeve, je dis pas que c'est rationnel, c'était complètement irrationnel, où les gens ont essayé, et pendant toute la période jusqu'à Java 11, où tout le monde s'est un peu calé, il y a eu une période entre Java 8 et Java 11, là, où c'était un flou artistique, où globalement, il y avait des gens qui réimplémentaient tout from scratch, et là, ça se passait bien. Et tous ceux qui essayaient de faire marcher leur code existant, se tapaient la tête contre les murs, ou attendaient que la prochaine release de tel framework, la prochaine release de ASM bidule, la prochaine release de... Et ça venait pas, et du coup, ils ont dû attendre. Et après, ça s'est stabilisé après la 11. Et je pense que c'est vrai que maintenant, c'est plus tellement rationnel de vouloir y rester, mais il y a une période là où les gens ont pris leur décision, et ils ont regardé la projection, ils ont dit, c'est encore supporté OpenJDK 8 jusque 2023. On va attendre de voir. Hein. On va attendre de voir. En plus, si je paye, si ça se trouve 2030, donc finalement, bon. Tu vois, c'est... Donc, je pense qu'à mon avis, du 8, il y en aura encore. Par contre, je pense que ça va quand même aller nettement plus vite, le fait d'avoir une LTS en 17 et le fait que la 11, du coup, va être la nouvelle version go-to pour les plus conservateurs, on va dire.
Ouais, sachant que la 11, là, Microsoft, ils vont mettre du support dessus jusqu'en 2024, ce qui est assez vieux. Et je sais pas si vous avez lu cet article qui, par ailleurs, était très corporate, mais il y avait un truc qui était marrant, c'était que Microsoft faisait le point un peu de tous ses usages Java. Et en fait, nous, on a tous en tête, évidemment, les usages dans Azure. Mais en fait, ils te disent, nous, déjà, on a tout le backend de LinkedIn et Yammer, c'est du Java, en fait. Ouais. Et c'est du Java très très up to date, quoi, parce que t'imagines le nombre de gens qui a chez LinkedIn à faire avancer ces sujets-là avec beaucoup de sujets data. Et après ils te disent, et sinon il y a quand même tout ce qui est Minecraft. Et en fait là, à ce moment-là, tu te souviens, mais c'est vrai, Microsoft ils ont aussi cette partie gaming. Et c'est vrai qu'en fait Minecraft c'est chez eux avec un gros serveur en Java et un client en Java. Enfin, et je trouvais ça assez amusant de voir toutes les implications de Microsoft dans le Java qui était résumé, je trouve ça très amusant.
C'est clair qu'en termes de déploiement de Java côté client, Minecraft est non négligeable. c'est assez énorme.
Java est partout, ce qui m'offre une transition parfaite pour le lien suivant. Le lien suivant est un article intitulé « Java is criminally underrated ». Java et c'est criminel que ce soit aussi peu regardé,
mortellement sous-estimé.
Mortellement sous-estimé. Merci. Et c'est vrai que Java est mortellement sous-estimé puisqu'il est partout. On en a parlé dans ce podcast. Il y en a partout et dans les écoles en ce moment, c'est pas forcément le premier langage enseigné. On a tendance à dire Java c'est vieux, à aller plutôt faire du machin ou du bidule.
C'est ça. C'est l'espèce de réputation de Java et le nouveau COBOL et trucs comme ça. Enfin, cette espèce de mantra qu'il y a eu pendant longtemps. Et probablement dû, en effet, au fait que Java a pendant longtemps, et c'est vrai que ça s'est beaucoup réaccéléré récemment, c'est ce qu'on disait, intégré peu de nouvelles fonctionnalités, soit de langage fonctionnel, soit de. Enfin, même en général. C'est-à-dire que le cycle de release des fonctionnalités était très lent. Et maintenant, ça s'est réaccéléré. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce que dit l'auteur de l'article, c'est que son point de vue... Alors lui, il est plus, je pense, un peu plus jeune que nous, sans trop nous vieillir dans l'IT. Et son expérience, c'est qu'en effet, Java, dans l'enseignement de l'informatique, est beaucoup moins proéminent, voire quasiment plus là, ou alors sur des langages de JVM. Lui, il parle peut-être plus du langage Java. Et il dit, en effet, si c'est le cas, c'est pour parler de ce qu'on parlera ensuite, c'est-à-dire de Scala ou de langage très fonctionnel, pour théoriser, par exemple, le développement en mode fonctionnel, mais pas Java tout court. Alors quand finalement, l'écosystème Java, en termes de librairie et d'usage et de productivité, il reste quand même, je ne veux pas dire pas égalé, parce qu'il y a d'autres plateformes qui ont des équivalents, évidemment, mais ça reste quand même quelque chose d'assez majeur. Et il y a des bases de code et de librairies, on parlait tout à l'heure d'entreprises, qui sont gigantesques derrière et existantes, qu'il n'y a pas besoin de réimplémenter. Quoi.
Aujourd'hui, si tu fais de la vraie big data, je ne vois pas tellement comment contourner Java. Quoi.
Ben voilà, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, c'est quand même les gens qui ont écrit Kafka en Java.
Bah, Elastic est en Java.
Dans ce cas-là. Ah, bon, j'aurais dû le garder pour le lien d'après. Il y a un autre truc qui ne mentionne pas forcément dans l'article, c'est la plupart des bootcamps sont très Rails, très Ruby, très orienté productivité tout de suite pour monter ton SaaS en fait, enfin un truc de bootcamp quoi.
C'est pas choquant, t'as 6 semaines pour apprendre aux gens à faire un truc. T'as vraiment envie d'aller leur expliquer tout l'écosystème Java, tu vois?
Non, et du coup, est-ce que est-ce qu'il manque pas un Rails à Java? Je ne sais pas.
Pour moi, il y en a deux. Il y en a deux Rails dans Java. Mais non, mais il y en a deux aujourd'hui. T'as Spring Boot, qui actuellement est très simple d'accès, et t'as Quarkus.
Mais c'est pas du tout le même niveau que Rails. T'es beaucoup plus Lego que Rails.
Bah après, il y a une philosophie un peu moins batterie included dans ce qui est Java, mais quand même, je suis assez d'accord que Quarkus et Spring Boot, tu as quand même beaucoup de batteries included quand même.
Bah, tu vois, le J-Hipster, pour moi, est beaucoup plus proche de Rails que ces trucs-là.
Peut-être, en fait, ouais. il te manque, tu sais, les modules automagiques de Rails, tu veux uploader un fichier qui va auto-summailer, faire tout nickel, machin, c'est genre le composant graphique d'uploader un fichier que tu vas insérer dans ton template et faire de l'automagie sur le serveur. Ce truc-là, il existe effectivement pas encore dans Spring Boot ou dans Quarkus.
Ils sont plus back-end.
C'est dans la fusion front-end back-end, je pense que Laurent voulait dire ça. Est-ce que je n'ai pas trahi ta pensée, Laurent ou...
C'est ça. Il y a la génération de code aussi. T'as beaucoup de générations de code où effectivement tu tapes une commande et bim, t'as tout qui est généré. Et ensuite, c'est à toi de venir implémenter ce que tu veux. T'as énormément de scaffolding en Rails. Et c'est pour ça que je pensais beaucoup à J-Hipster.
Mais c'est pas l'ancien patron, justement, de Spring qui est parti faire une boîte de scaffolding, là?
On ne génère pas beaucoup de scaffolding. L'appui, c'est runtime.
Ouais, tu parles du projet de Rod Johnson. C'était pas tout à fait un truc de scaffolding. C'était plus un truc de factory sous forme de code.
Spring Rule, peut-être.
Ah non, Spring Rule, c'était du scaffolding, ça à l'époque.
Il y avait beaucoup de code généré, mais c'est pas la même chose.
C'est chez Atomist, je crois que ça s'appelait la boîte.
Alors Atomist, c'est plus de coder ton pipeline, si tu veux. C'était des briques de pipeline que tu peux coder, si j'ai bien compris ce que c'était. C'était plus ça que générer ton code applicatif en scaffolding de UX, si tu veux.
Au lieu de YAML.
Moi, c'est ça.
Voilà. Et voilà, moi, je pense que pour revenir au sujet du début, peut-être qu'il manque un Rails à Java aussi pour que ce soit plus enseigné dans les bootcamps. Je ne sais pas.
C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose. Je pense que ce qu'il déplore un petit peu, c'est le décalage. En tout cas, son expérience. Après, encore une fois, c'est une expérience et c'est intéressant de le voir. Après, c'est pas une vérité absolue, mais l'expérience qu'il a eue, c'est qu'il a appris beaucoup de choses qui étaient. Donc lui, justement, pas très Java Center. Lui a appris du Python, du JavaScript, plein de choses comme ça, et des langages fonctionnels et ainsi de suite. Mais en revanche, il s'est rendu compte a posteriori quand il a commencé à faire des jobs, quand il a commencé à travailler, que là où il était le plus productif, en tout cas en équipe et avec des profils différents, c'était sur du code Java, objet simple, avec des librairies connues et des choses comme ça, parce que finalement on se concentrait sur les fonctionnalités et moins sur la hype du langage en cours ou sur les problématiques du langage en cours. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans le point de vue. Et ce qui fait un enchaînement négatif pour le point suivant.
C'est pas parce que Josh t'a pas encore donné.
Pardon, vas-y. Pardon.
Josh, hein? tu as. Tu,
oui,
Josh,
oh, tu disais.
Ce que l'auteur a ignoré, c'est que Java, c'est pas le plus strict en ce qui concerne le type. Mais le JVM, c'est la fondation pour Scala, Groovy, Scotland, Java, tout ça. C'est un étudiant, n'est-ce pas, l'auteur?
Ouais, enfin, il vient juste là.
Il commence à travailler, disons. Il est étudiant récent, oui.
Ouais. Mais quand même, le sentiment, moi, je l'adore. C'est que Java est mille fois plus valable et ça mérite le plus de hype. Comment dit-on hype?
On dit hype.
Hype, ok.
On est trop anglicisé dans les termes comme ça, on va dire hype nous-mêmes. Hype, on va dire de...
Si tu veux parler avec des gens qui parlent vraiment français, il faut aller parler avec des Québécois, en fait.
C'est vrai, c'est ça. Il faudrait inviter un Québécois quand on est comme ça. Il nous corrigerait chaque fois qu'on dit un mot anglais.
Oh.
À raison. Hype, ça serait quoi? C'est pas réputation, c'est pas... Ouais.
C'est bath, c'est in, c'est... Je ne sais pas.
C'est bat.
Mais okay. Par contre, peut-être un message pour ceux qui n'ont pas fait de Java depuis longtemps. Franchement, le langage a bien évolué. Il y a beaucoup des a priori que vous pouviez avoir contre le langage qui sont partis. Effectivement, dans 17, il va y avoir beaucoup de choses. Genre, beaucoup, beaucoup de choses. Et,
Mais il commence à y avoir des records, du pattern matching, des choses plus ou moins intéressantes qui ne sont sans doute pas aussi poussées, mais qui sont...
C'est ça, la plupart des gens qui étaient restés en Java 7 disaient « il n'y a pas de lambda, il n'y a pas de pattern matching, ça ne m'intéresse plus ». Mais en fait, maintenant, c'est bon.
Il, y a des ah, mais là, il va manquer d'autres choses maintenant.
Il n'y a Java pas de trait, il n'y a pas de... Oh. Java, c'est pas mal nourri, en fait, je trouve, de ces... des langages qui existent sur la plateforme, et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Et les langages continuent à avancer et Java s'en nourrit. Et moi, je trouve que c'est une très belle plateforme, que le langage évolue. Et oui, c'est pas le langage dans lequel on introduit le maximum d'innovation, mais c'est aussi ce qui fera la stabilité du langage dans la durée et dans sa bonne santé. Enfin, prenez un langage comme C++, où à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée, on disait « ouais, chouette, allez, vas-y, on le colle dans le langage ». Résultat des courses, on s'est retrouvé avec une spec du langage qui faisait deux fois la taille de la Bible, tu vois, avec des idées brillantes comme les class friends, tu vois, où t'as envie de dire genre, mais qui a eu cette idée, tu vois, genre, qui s'est dit, tiens, c'est une très bonne idée, genre, faisons ça, tu vois, enfin, qui quand même, t'avais quand même plein de très mauvaises idées en CPP, et du coup, enfin, c'était quand même pas terrible, je trouve que Java a pas tellement de fonctionnalités du langage, tu vois, dans le langage même. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de trucs où on se dit genre ouais non, tu vois, genre vraiment mauvaise idée. Je trouve que les trucs qui ont été introduits sont
elles
là.
Elles sont plus dans des implèmes, genre des vieux trucs, genre l'implémentation des properties, enfin tu vois des choses comme ça, mais c'est pas dans le langage lui-même. C'est, ouais. C'est plus dans des vieilles implémentations qu'il faudrait progressivement virer. Et c'est dû au fait que Java a quand même été et est toujours très orienté sur la backward compatibility. C'est-à-dire que là, par rapport à d'autres plateformes qui n'hésitent pas à casser dans des versions majeures et de dire bah voilà, là il faut quand même que tu recodes tout, quoi.
Et depuis Java 11, on a fait un sacré coup de balai quand même.
Et il y a un sacré coup de balai et ça évolue beaucoup plus vite. Et c'est quand même. Et je trouve que le compromis est même intéressant dans le sens où ça aurait pu même évoluer encore plus vite. Mais je trouve qu'ils mettent le bon niveau. Et je pense que ce sera intéressant de voir comment ira la. Je ne sais plus quelle est la suivante. Je crois que c'est 23, la LTS après la 17. De voir comment ça va continuer à s'accélérer parce que je pense que. On parlait de fonctionnalités encore au-dessus du pattern matching et tout ça, je pense que ça va encore évoluer, les 18, 19, tout ça vont ramener plein de choses nouvelles, parce que la 17 va juste être une validation de ce qui est figé en 16, il n'y aura pas énormément de nouvelles fonctionnalités, ça va être maintenant assez figé pour la LTS, et après ils vont reprendre le cycle d'introduire des choses qui sont un peu plus radicales, je pense, à partir de la 18, donc ça va être assez intéressant à voir évoluer.
Ouais. J'allais dire que pour ceux qui n'arrivent pas à l'attendre, il y a toujours Scarlett Kotlin, mais la magie, c'est que si vous attendez juste un peu, Java va l'adopter, l'intégrer,
Et puis l'intégrer à son écosystème qui est quand même beaucoup plus grand que la plupart de ces langages, mine de rien.
Puis c'est ça, puis c'est Java et la JVM, c'est-à-dire que la JVM, elle supporte aussi les use cases de Scala, Kotlin et co, quoi. C'est-à-dire, enfin, Kotlin, c'est encore un peu différent parce que ça tourne pas dessus, mais en tout cas, c'est ça l'idée.
Ok, donc vous avez envie de parler de Scala.
C'est ça l'important.
Ouais. Pour moi. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années, autant on va plus vite, autant Java a quand même réduit le spectre dans lequel il agit. C'est-à-dire que factuellement, la partie JEE est partie un peu en cacahuète. Et aujourd'hui, ce qui drive l'adoption de serveurs, c'est Spring Boot, c'est Quarkus, c'est ce genre de choses.
Et côté client, côté client, il y a quasiment plus que Java FX parce qu'ils ont droppé tout ce qui est plugin dans navigateur et compagnie, quoi.
Voilà, plus d'applet FTP, je suis triste.
Et plus de Java Web Start aussi, qui était beaucoup utilisé en entreprise.
Moi, j'aimais bien.
Mais ils ont...
En vrai, c'était cool, hein, Java Web Start.
Java Web Start, ça existe toujours? Je crois que j'ai vu récemment le look on a enlevé.
Non, c'était enlevé en 11, je crois. Enfin, à partir de la 11.
Ça a été renommé Web Assembly, je crois.
Ouais. Non, mais Open Web Start, c'est ça?
Il y a eu OpenJFX aussi pour JavaFX qui a été retiré du cœur. Et il y a sans doute quelqu'un qui a fait un open web start pour pouvoir supporter les use cases des gens qui n'ont pas le temps de recoder tout.
Ouais, c'est
open, openwebstart.com run GLP files with the latest Java version.
Ah, intéressant. Ça continue.
C'est toujours en vie.
WebAssembly, c'est intéressant aussi. Je me demande si un jour Graalvm va compiler.
C'est un objectif. Je pense qu'ils travaillent dessus.
Très probablement.
Ouais. Cool. On passe au lien suivant. On va parler de Scala 3. On en a déjà beaucoup parlé. Donc, c'est la RC1 de Scala 3 est disponible. Quentin.
Cool. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, donc Scala 3 est un boulot qui est assez long, hein. Ça fait longtemps que c'est en baking, Scala 3. Globalement, c'est les équipes très EPFL qui ont bossé dessus, dans le sens où c'est plutôt la partie universitaire en fait qui a pris le temps là-dessus. Et en fait, à la base, c'est un projet qui s'appelle Doty, où en fait, ils ont réécrit le compilo Scala de façon plus modulaire, mieux construit, et ils ont retravaillé des choses. Et aujourd'hui, ils sont RC2 même. Sur Scala 3 avec un certain nombre de nouvelles features, mais surtout un Scala qui va moins se traîner et une capacité à gérer les macros de compilation moins débiles, ce qui fait qu'on va pouvoir virer beaucoup de code shapeless illisible, pour être tout à fait honnête avec ce qui se passe. Donc, toujours est-il que voilà, on est en RC2, donc la release finale de Scala 3, c'est très rapidement, et je pense que ça va être extrêmement agréable en tant que développeur de réussir à avoir beaucoup des outils qui rament moins, c'est mieux construit sur plein de sujets. Et du coup, je pense que c'est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas encore regardé Scala 3 et que vous faites vaguement du Scala, ça vaut le coup de vous y mettre, de regarder ce qu'ils sont en train d'apporter. Ça avance bien. Voilà. Et ils sont un petit paquet, hein. Il y a à bosser dessus. Enfin, là, il y a eu une accélération du développement entre la M1 et la RC1. Il y a eu 400 paires, quoi. Enfin, il y a du monde, quoi. Et d'autres, si je vais essayer de vous trouver.
Dont 150 par Martin Oderski, quand même.
Ouais, mais qui
reste très actif. Hein.
Il est toujours là, quoi, c'est cool.
Bah, c'est,
bon, après, je pense que c'est lui qui doit en merger un paquet aussi. Hein. C'est sans doute pour ça.
Ouais, c'est sûr. Mais si tu regardes les contributeurs.
Ouais, c'est actif. Hein, c'est vraiment.
Ils sont plusieurs à être actifs, vraiment actifs. Et
il y a une vingtaine de personnes qui sont vraiment à fond, quoi.
Ouais, et après il y a plein de contributeurs, enfin, et ça repose pas sur une seule boîte. Scala qui était parti un peu dans l'idée que c'était Lightband anciennement TypeSafe qu'allait gérer le langage, bah en fait non. Aujourd'hui ça s'est recommunautarisé. Beaucoup autour de l'université, enfin de l'universitaire avec le PFL, mais pas seulement. Et je trouve que c'est sain, le langage va bien. L'ambiance est plutôt bonne, enfin, je trouve que ça va bien. Donc, voilà. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Oh, mais vous apprendrez qu'en fait, la release de la RC3 est sortie pendant que je vous parlais. Genre, elle est sortie il y a 2 jours.
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de RC en ce moment parce qu'on est passé de la RC1 à la RC2 en cours de... Et là, du coup, il y a la RC3 en même temps. C'est la fête.
Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la RC3 n'a pas encore ses notes de... Ouais. Ils n'ont pas encore écrit le change log de la RC3. Voilà.
D'accord.
Du coup, je
bref, c'est abusé. En cours. Hein.
Je suis abusé.
Josh, tu as vu quelque chose. J'ai vu que tu as
réagi. Fait... Ouais, tu as fait... Ha
ça me semble intéressant, mais je viens de remarquer que au coin, il y a ce bouton que, une fois cliqué, va lancer gitter.im.
Mm-hmm.
Vous l'avez-vous?
Open chat.
Ouais. That's smart, very smart.
Yeah. Ouais, du coup, tu peux aller parler au
contributeur. C'est une communauté qui est à fond sur Gitter, en fait, ce cas-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets avec du Gitter. Et comme Google Index Gitter, des fois, quand tu as une question un peu spécifique, en fait, tu tombes sur du Gitter quand tu fais des questions. Et je vous rappelle que Gitter est de plus en plus intégré dans Element Matrix. Et donc, c'est vraiment, enfin, ça, c'est les valeurs un peu open source et universitaires qui, je trouve, avancent à fond dans cet écosystème-là. Et je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles.
C'est chouette, ouais.
Très sympa, ouais.
Il y a un serveur Matrix expérimental en Scala qui existe avec des gens qui commitent dedans quand ils sont de bonne humeur. Donc,
On verra ce que ça donne. En parlant de bonnes nouvelles, parlons du lien suivant. Nous avons enfin... Ouais, je sais, c'est compliqué. Nous avons enfin sorti Biscuit. Biscuit, qui est donc est arrivé après les cookies, après les macaroons, il y a les biscuits. Une technologie Clever Cloud.
Biscuit.
Geoffroy Coupry. On a parlé du blog d'intro la semaine dernière et on a sorti le didacticiel. Qui veut nous parler de Biscuit? Monsieur Adam.
Oh ben je peux avec plaisir. Donc Biscuit, c'est le nouveau token de chez Clever. Donc ses avantages, c'est la capacité à intégrer les droits des gens, pas les rôles, mais les droits des gens dans un langage. Ce qui est intéressant, c'est que ce langage en lui-même peut vous servir pour déterminer les droits sans nécessairement utiliser obligatoirement le Biscuit. En fait, c'est vraiment une solution pour faire de l'access control de façon intéressante. Donc c'est fait en datalogue et là notamment le blog post écrit en datalogue décrit très bien en datalogue comment on décrirait des droits et comment on expliquerait les choses, et on fait des parallèles avec du SQL pour que ce soit clair. On écrit des requêtes en datalogue et en SQL, et il faut savoir que globalement dans un moteur SQL quelque part vous avez un moteur de datalogue parce qu'en fait c'est un langage clé là-dessus. Donc c'est là le truc qu'on sort, ça vous permet de montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il faut savoir que tout le boulot qui est fait actuellement, ça consiste aussi à créer des web composants qui permettent d'interagir avec le datalog. Ça permet de travailler sur tous ces sujets-là. Et du coup, ouais, il y a un très très beau boulot qui est fait en cours sur Biscuit. Nous, on s'en sert déjà en prod, et je pense que ça peut. Si vous avez des use cases compliqués d'autorisation, ça peut être intéressant. Si vous avez des use cases simples d'utilisation, ça peut aussi être intéressant de regarder ce qui se passe, parce que le Biscuit va vous permettre à la fois de déterminer les droits, ensuite d'atténuer, et l'atténuation, enfin je pense que c'est un use case qui est hyper intéressant.
Je pense que ça, c'est la fonctionnalité qui est la plus parlante et qui détache aussi d'autres mécaniques de style. C'est justement l'atténuation. C'est le fait de dire, en tout cas, qui parle rapidement. Après, pour des gens qui ont vraiment des use cases de gérer des droits complexes, c'est autre chose. Mais se dire, voilà, on va donner un token à quelqu'un, par exemple, on a un intervenant externe qui intervient sur du code source quelque part. On lui donne un token qui permet de committer ou ainsi de suite. Et cette personne va pouvoir, par exemple, elle a accès à une série de repositories, une vingtaine de repositories. Elle va pouvoir atténuer ses droits et donner un token qui est dérivé de ce token-là à quelqu'un d'autre dans son entreprise. Et ce token n'a accès qu'à un seul des repositories. Mais elle ne peut pas augmenter ses droits, elle peut les atténuer. Mais du coup, ça permet de ne pas avoir à repasser par la personne qui a distribué le token au départ pour donner des droits atténués. On peut du coup faire de la délégation de gestion de droits. Et ça, c'est vachement intéressant pour des scénarios d'invocation de services, d'utilisation de services tiers, quoi.
J'arrive pas.
Tout est open source.
Et c'est oui. Open source avec une spec ouverte.
Il y a un client Java, un client Rust. Il y a du WebAssembly déjà ou pas? Je ne sais plus.
Oui, oui, le Rust est un client web.
Ouais.
Il y a des clients disponibles Java.
Oui. Ouais. Nous-mêmes, on s'en sert parce qu'on a fait toute l'authentification de Pulsar chez nous à base de Biscuit. Et donc, en open source, il y a la version du Biscuit Pulsar Authentication qui existe.
Qui du coup est en Java.
Qui est en Java. Et sachant que la version Rust a des C bindings, globalement, il peut être utilisé pour intégrer dans plein de cas. Notamment, il y a des gens qui sont en train de faire une version Haskell. Et il y a également une version pure en Go aussi qui existe. Donc,
widely. C'était qui? C'était l'équipe de Flynn qui avait fait ça?
C'est l'équipe de Flynn qui avait fait ça, ouais. Donc ça intéresse, ouais, il y a des gens qui commencent à utiliser Biscuit qui ne sont pas de chez Clever. On va continuer à faire des efforts. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les blogs. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'on essaie de construire? Est-ce que ça vous paraît clair ce qu'on essaye de construire? Toujours est-il que nous, dans Clever, on va continuer à travailler l'intégration et ça va nous permettre de faire un système d'ACL beaucoup plus complet que ce qu'on a aujourd'hui et qui va permettre de nombreux use cases, quoi.
Yes. Rob Winch a été prévenu, a été pingé sur Twitter. J'espère que
J'allais vous demander. Ok.
Ouais, j'espère
Spring
qu'il.
Security. Rob Winch, le manager de Spring Security. Spring Security.
Ouais, c'est ça. Bon.
Donc, j'espère qu'il aura le temps de regarder. Ok. Josh, tu as un avis là-dessus? Tu veux dire quelque chose? On passe au lien suivant. Lien suivant, c'est Lifebook. Lifebook est un nouveau projet. C'était quoi ton expression tout à l'heure pour Lifebook? C'est un projet Elixir. Et t'as dit quoi? Killer app. Oui.
Cette expression ne s'emploie pas en français, je ne sais pas, mais...
C'est mortel, quoi.
C'est mortel, ça tue.
Comme Rails et Zope. Rails pour la communauté Ruby, Zope pour la communauté Python, et tout ça, non? Maybe,
peut-être. Et donc, Lifebook, c'est un espèce de Jupyter Notebook, mais fait en Elixir. On peut installer des dépendances Elixir, on peut exécuter du code Elixir en direct. Et la démo est assez bluffante. C'est le blog de release et d'annonce du projet. Et vraiment, la démo est très, très cool. Je vous invite à jeter un œil là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont des plans pour aller plus loin qu'Elixir, mais ce serait vraiment chouette.
Et c'est le fondateur d'Elixir qui a codé le truc.
Zazie Expliquanzella.
C'est José Valim. Non? Si, je ne sais pas.
Si, c'est José Valim. Moi, ça m'a bien hypé, en tout cas, ce soft. Il m'a beaucoup plu. J'étais très excité.
Et en l'occurrence, ça a été développé par Jonathan Klosko avec des contributions de José Valim. Ouais.
Mais il fait partie de la team, quoi.
Ouais, c'est ça.
John Klein, Chris McCord et design avec Akash Raj Dahal au design. Et ça utilise les live view d'Elixir. En fait, ils sont faits plutôt. Je sais pas s'ils l'ont fait pour ça. Les live view, c'est un peu le action cable de Rails dans Elixir, ce qui permet de faire des pages live, quoi, avec de la WebSocket et toutes ces choses là. Et donc, je sais pas s'ils l'ont fait exprès pour faire une démo techno, mais en tout cas, le produit final est cool. Cool.
Mais moi, ça m'a bien hypé. Donc, si dans la vie, vous faites du machine learning, allez jeter un coup d'œil, parce que ça devrait être plus rapide et plus sympa. Et voilà.
Plus sympa, ouais. Il y a quelques bindings, effectivement, et de librairies déjà en machine learning Elixir. Donc, n'hésitez pas à regarder. Est-ce que ce sera la killer app? Je ne sais pas. Maybe.
Intéressant. Quand même.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est surtout très très bien qu'il y ait un petit peu de mouvement dans ce marché-là, qui ronronne un peu.
Ben ouais, il y avait Patchy Zeppelin, je sais pas trop où ils en sont, Zeppelin. Ensuite, il y a Jupiter qui est arrivé, qui a un peu fait place nette. Et du coup,
C'est ça.
on va voir. Après, Zeppelin et Jupiter sont très multilangage, multisource. Enfin, c'est un peu plus complet. Ils sont un peu plus vieux aussi, évidemment.
C'est ça, il
Donc,
faut laisser le temps à la chose de se diversifier.
absolument. Ok, lien suivant, c'est deux liens qui sont assez proches les uns des autres, parce que j'ai vu sur Hacker News la création d'un truc qui s'appelle Zen Reader. Zen Reader, en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin de lire ses news sur un écran qui lui éclate pas les yeux. Donc, pas un écran de tablette, mais un écran e-ink, donc, un écran à encre électronique. N'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il en a fait un. Il a vu le M5 Paper, le M5 Paper, c'est un grand écran e-ink avec une puce wireless. Et du coup, il le contrôle avec un ESP32, qui est un microcontrôleur que vous connaissez peut-être si vous nous avez déjà vu en conférence et que vous nous avez vu faire des bricoles avec des strips de LED. Ça, je pense que Quentin, tu as des choses à dire là-dessus. Et Quentin est en train de parler à des gens.
Non, c'est
Quentin.
bon, tout va bien. Non, écoute, déjà, il y a un truc qui est très très cool, c'est le M5 Paper. En fait, c'est des gens qui font ça, qui s'appellent les M5 Stack. Et globalement, si vous voulez faire plaisir à Philippe Charrière, n'importe quoi de chez M5 Stack, il passe sa vie dessus. Et en fait, ils font des espèces de devices qui sont prêts à l'usage, mais dont vous pouvez retaper tout le code vous-même. Et là-dedans, vous avez effectivement un petit ESP8266. Et j'ai trouvé que c'était assez cool, un truc. Enfin, c'est vraiment sympa, leur M5 Paper, et ça coûte pas très cher en plus. Hein.
On n'en a pas parlé,
Ça
mais il
coûte
a fait son
80
petit
balles.
lecteur RSS avec. En fait, c'est pour lire ses news RSS sans
Ouais.
se niquer les yeux.
C'est depuis la fin de Google Reader, on a tous besoin d'un lecteur RSS.
Exactement.
Oui,
C'est
parce
ce que
qu'après,
non mais.
il explique comment, en effet, il a utilisé ça pour faire un petit truc qui va chercher les liens HTML, les retransforme en texte lisible facilement pour éviter d'avoir trop de processing sur la cible. Et donc, il a quand même un petit truc derrière qui transforme ça d'abord pour éviter de faire le processing dessus, quoi. Une espèce de petit proxy, quoi.
Mais tu pourrais imaginer par exemple te connecter à ton compte Pocket, tu vois, et
Absolument.
charger ton compte Pocket, ce
Alors,
qui
Pocket,
serait
c'est rappeler aux gens ce que c'est, ça permet d'enregistrer les pages des liens et d'enlever tout un tas de trucs inutiles et de laisser essentiellement
le texte.
le titre et le corps de l'article
Ouais.
pour le
Ça
rendre
permet
visible.
surtout de supprimer des onglets de ton browser en les enregistrant dans Pocket, que tu n'iras jamais lire parce que tu n'as pas le temps, mais ils sont plus en train de traîner dans ton browser.
Ils ne sont plus dans ta RAM, ils sont dans le serveur de Pocket.
C'est ça.
Et donc c'est construit avec donc un ESP32 et tu nous as mis ensuite un lien vers Rust Extensa qui est une lib Rust pour ESP32. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'écrire du C pour faire ça.
Ouais. En fait, Rust Embedded avance à fond, avec plein de projets pour faire du Rust Embedded, donc sur toutes les archis comme ça, microcontrôleurs plus que processeur en tant que tel. Et t'as les gens de Extensa, qui est une espèce de gros framework embedded, qui bosse à fond en fait sur comment le rendre dispo. Et là, tu as quelque chose d'assez propre pour permettre d'utiliser du Rust sur le ESP32 et sur tout ce qui est 8266. Sachant que de l'autre côté, vous allez en retrouver aussi pour faire du STM32, pour faire toutes ces choses-là, vous allez retrouver du Rust en face. Et donc, en fait, il y a toute la progression. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'on va
Ça
avoir...
veut dire un truc, ça veut dire que Philippe Charrière va se mettre au reste.
C'est pas faux. Ça veut dire que Philippe Charrière va se mettre au Rust. Non, mais au-delà de la blague, ça veut dire surtout qu'on va avoir moins de bugs dans les devices du quotidien. En fait, tous ces devices du quotidien avec une puce pétée là, ou parfois, en fait, elle bug. C'est pas très grave. En général, tu coupes l'alimentation, tu la remets, le machin reboot et on est reparti. Mais tous ces trucs-là, en fait, on aura probablement moins de bugs parce que, bah, il y aura un vrai compilo à checker ce que c'est, quoi.
Quelque chose d'un peu plus robuste, ouais. Et donc derrière, donc, c'est basé sur du LLVM, je crois.
Ah, bah, bien sûr, parce que Rust, c'est dans LLVM. Ouais. Ouais. Mais si vous avez eu le kit Clever Cloud en goodies il y a quelques temps,
c'est le temps jadis, quand il y avait des conférences physiques et que nous pouvions distribuer des goodies, c'est-à-dire une éternité,
et ben c'est le moment de jouer avec et d'utiliser Rust. Et du coup, ce serait drôle.
Et de faire votre propre Google Reader avec AM5.
Ou vous pourriez, par exemple, écrire en morse sur la barre de diode qu'on vous a donnée les articles que vous avez dans le Google Reader.
Pratique.
Ah, d'ailleurs, au passage, je ne crois pas qu'on l'ait mis dans les show notes. Pour ceux qui se mettent à Rust, il y a aussi Microsoft qui a publié des gros tutoriaux didacticiels Rust en ligne, vidéo, qui sont assez intéressants, qui, me semble-t-il, sont gratuits. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Bon, après, la doc de Rust en elle-même est déjà bien, mais c'est toujours bien d'avoir des exemples pratiques.
C'est plus didactique, c'est plus accessible. Ça fait moins bible, entre guillemets. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait.
Et le point intéressant surtout, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de code maintenant disponible sur le net. C'est-à-dire que quand vous cherchez à comprendre ce qui se passe avec tel lib, vous allez facilement trouver un projet GitHub de quelqu'un qui utilise la lib. Et du coup, comprendre plus facilement ce qui se passe. Enfin, là où il y a quelques années, ça devenait vite un tout petit peu pénible, quoi.
Et ce qui est très intéressant pour moi qui ai commencé Rust depuis... cette année, on va dire, enfin une année calendaire, c'est que toutes les Rust docs on contiennent à chaque fois la source. C'est-à-dire quand on a dans une Rust doc, on peut déplier et voir la source de l'implémentation sans avoir forcément à ouvrir un IDE ou un outil. Donc c'est vraiment pas mal pour explorer les implémentations.
Pour apprendre.
Ouais. Et pour apprendre. Ouais.
Est-ce que Josh, est-ce que tu étais un utilisateur de Google Reader? Est-ce que tu es un avis d'utilisateur de RSS? Non? You don't? Josh, est-ce que tu utilisais des RSS?
Pas encore parce que Google Reader.
Ouais.
Google l'a trouvé il y a quelques ans. Hein. Oui, c'est plus. Et maintenant, le web, c'est devient les îles de contenu sont plus en plus isolés. Alors, il y a Medium et Facebook et tout ça, et RSS, elle meurt.
Ouais, l'agrégation est devenue compliquée.
RIP RSS, dont la mort a été prononcée par Josh Long un 21 avril à 11h02, heure française. Rest in peace.
Oui, mais on va tout sauver avec le fait divers, Laurent Dauguin.
C'est vrai.
C'est ça.
RSS est mort, vive RSS.
ou Matrix. Ok, et on passe au dernier lien de ce podcast, c'est le Tool Rust de la semaine, et c'est Zellige, c'est un multiplexeur de terminal. C'est un lien de Quentin.
C'est comme Screen.
C'est comme Screen, c'est comme Tmux. Ouais, je crois que ça vient de toi. Hein.
Ouais, mais on va dire la même chose, en effet, c'est un équivalent.
Il vient d'être compilé, parce qu'il a été packagé sur Exervo dans la nuit, il vient d'être compilé sur ma machine.
Il a été packagé hier soir par Marc-Antoine Perrineau.
Et il a l'air assez sympa au niveau... UI un peu moins vieillot entre guillemets que Tmux. Après, c'est les goûts, les couleurs, puis les gens qui ont l'habitude, bah, ils ont leur réflexe, donc ça change. Les shortcuts de prime abord ont l'air un peu moins, un peu plus intuitifs que ce Tmux quand on n'a pas l'habitude. Après, encore une fois, c'est comme tous les shortcuts, quand on s'est pris, quand on les a bien intégrés, bah, on devient productif avec et on fait plus attention. Et du coup, on se demande pourquoi il y a besoin d'en changer. Mais de prime abord, ça, un Alt-N pour ouvrir un nouveau pane, c'est toujours plus sympa qu'un Ctrl-B% ou un truc comme ça, quoi. Et après, tout le monde se fait ses propres binding Tmux et assez conf Tmux custom et tout ça, donc c'est toujours possible d'adapter. Mais ça a l'air assez joli.
Moi, je reste sur les valeurs par défaut, sinon tu débarques sur un serveur partagé.
C'est
et
ça.
Et là, tu te retrouves comme un débile à pas pouvoir taper la moindre commande parce que t'es pas sur tes bindings à toi. Ouais. Non,
je reste c'est toujours la discussion de personnes qui disent mais pourquoi tu te fais pas tes .files, mais parce que je suis pas toujours sur mon poste perso pour me connecter, donc c'est pas toujours évident. Et voilà, donc savoir comment fonctionne un outil par défaut, c'est quand même vachement pratique. Et là, il a l'air d'avoir des défauts un peu plus sympas. Ça a l'air d'être un peu plus moderne que Tmux, quoi, on va dire. Alors après, il faut tester. C'est récent, c'est frais. Donc, faut se faire la main dessus, quoi.
Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une feature Ranger-like que j'ai trouvé assez intéressant, qui permet de se balader dans les fichiers, auto-ouvrir un éditeur avec une espèce de pane sur le côté et t'as des fichiers et tout. Et y a, le mec a recodé un Ranger en Rust. Ranger, de base, est en Python. Et du coup, des fois, il a des problèmes de perf, un peu, le petit bonhomme, quand tu ouvres des gros fichiers. Là, là où, en Rust, si c'est codé normalement, il ne devrait pas y avoir trop de pépins.
Et il y a un système de plugin en WebAssembly dans Zellige. C'est la classe.
Yep. Oui, ça a bien hypé Geoffroy.
Je peux comprendre. Et ben c'était le dernier lien de cette émission. Et donc, nous allons finir, comme d'habitude, par le lien musical de l'invité. C'est ton moment. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ça? Je vais pas dire aux auditeurs ce que c'est, ils le découvriront quand ils écouteront. Mais est-ce que tu veux nous dire pourquoi...
Je viens de voir le lien.
Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? En sachant que la semaine dernière, on les a déjà tués.
C'est la lutte de l'entreprise.
C'est la lutte de l'entreprise. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un lien qui correspond à une époque où tu étais en France.
Oui, mais aussi, ça me rappelle une guerre. Et... Vraiment, je pense à cette chanson souvent.
D'accord. On va du coup s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs?
Non, attends, le clip vaut son pesant de cacahuètes. Hein.
Bien sûr.
N'hésitez pas à suivre le lien dans les show notes.
Josh, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire à nos auditeurs?
Un dernier truc à vous dire?
À dire aux gens qui écoutent ce podcast.
Oh, merci.
One last word.
Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité, mes amis. C'était un vrai plaisir de vous revoir encore une fois, même en vidéo.
Oui,
à défaut de mieux.
Merci.
J'espère qu'on va rapidement au Tiki Bar.
Ouais, c'est ça. J'espère. Hein. Et c'était vraiment agréable. Merci pour m'avoir accommodé.
Avec plaisir. Eh bien, nous vous
merci
disons
merci encore
tous
à toi d'être venu.
Et d'avoir fait Josh. L'effort de parler en français.
Absolument. À 2h du matin.
Non, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que demain, il fait un podcast en lituanien.
Demain
Là, il se demande si c'est vrai, il se dit mince.
Qu'est-ce qu'a branlé mon assistant?
dans 7 heures. Dans 7 heures. Anyway, merci beaucoup, c'était cool. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands...